pour lesquels nous avons mobilisé une partie donc de notre flotte sur ce théâtre d'opération, encore une fois non pas pour attaquer, mais tout simplement parce que nous avons été attaqués, et puis il y aura des dispositions à prendre aussi, je le rappelle, il y a des dispositions humanitaires dans la région, et chacun doit jouer son rôle, et la France le joue, oui, dans le cadre, évidemment, je le rappelle, c'est dans le cadre, encore une fois, de ses obligations européennes et évidemment nationales.
D'un mot pour finir, il nous reste 30 secondes, donc la prescription du docteur Breton, c'est l'Europe agit, et l'Europe plus audible.
Et l'Europe qui respecte les traités, tous les traités, rien que les traités, mais qui les respecte pleinement, parce que nous avons besoin, encore une fois, dans les moments où nous vivons, de clarté, et que chacun fasse son travail.
Merci Thierry Breton d'être venu ce matin sur RFI.
Merci.
Et à bientôt.
Thierry Breton, ancien ministre, ancien commissaire européen, il répondait à Arnaud Pontus sur RFI. Vous restez bien avec nous dans un peu plus d'une minute, le retour de l'information africaine.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions dans Priorité Santé sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
la rage, l'urgence d'agir en cas d'exposition au virus.
Demain,
question de femmes, prendre en charge les peaux sensibles et allergies cutanées.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Le MASA, marché des arts du spectacle africain, se tient du 11 au 18 avril à Abidjan sur le thème « Les arts du spectacle, moteur d'intégration économique et sociale en Afrique ». Au programme, spectacle, village de l'innovation, street art, rencontres et colloques internationaux. Le MASA, du 11 au 18 avril à Abidjan. Plus d'informations sur massa.ci. En partenariat avec RFI.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
À l'occasion du Salon du Livre Africain de Paris, nous recevons deux auteurs qui questionnent les clichés sur le continent et l'attrait qu'il exerce pour ceux qui ne le connaissent pas. Philomé Robert dans son nouveau roman, Port-au-Prince Cotonou, et Naïl Verndeuil pour son album Jeunesse, On dit que les girafes sont en Afrique.
Sur le Pont des Arts avec Nathalie Amar, du lundi au jeudi à 15h10 TU sur RFI.
Écoute RFI, 6h30 à Dakar et en temps universel, 7h30 à Kinshasa. Édouard Dupénoat pour l'actualité africaine et cette contre-attaque sénégalaise.
Un pays entier qui monte au front contre le retrait du titre continental de champion de foot, avalanche de messages, de prises de parole et de ripostes sur les terrains judiciaires. Y a-t-il eu des militaires maliens, otages de terroristes, échappés d'un camp de réfugiés en Mauritanie? Enquête RFI dans ce journal sur cet infox surgonflé qui a fait grimper un peu la tension entre Bamako et Nouakchott. En Guinée, énième recours contre la vague de permis miniers retirés l'année dernière. Les entreprises étrangères concernées multiplient recours et arbitrages. Les chiffres du cacao en Côte d'Ivoire, où en est-on de ces 100 000 tonnes de fèves que l'État promettait de racheter après la chute des prix en première campagne?
Les Tinariwen font résonner la vibrante nostalgie de leur terre natale.
Fini les influences country ou de musique étrangère. Leur dernier album est un pur retour aux sources, musical du moins. Quelques notes à la fin de cette édition.
Il y a une nouvelle photo de profil sur la page Facebook officielle de Bassirou Diomaye Faye.
On y voit le président sénégalais à son bureau en train de paraphrer un document, mais l'essentiel est derrière lui, au milieu de l'étagère, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. En matière de communication politique, on fait difficilement plus clair. Le Sénégal a gagné la CAN, vous ne lui retirerez pas son trophée. Dakar sort donc les griffes après la décision du jury d'appel, saisine du TAS, demande d'enquête pour des soupçons de corruption. Et dans les rues, Léa Lisa Vesterov, le 12e Gaïndé, est unanime.
La boutique de maillots de foot près de l'université est encore vide. Mais ici, aucune décision de la CAF ne fera disparaître la deuxième étoile fraîchement ajoutée au maillot vert ou blanc du Sénégal, comme l'explique Mbaké, son propriétaire.
On ne va pas les enlever, jamais. Les deux étoiles sont déjà gravées sur les maillots, donc il faut qu'ils arrêtent leur magouille, là, quoi. Parce que le Sénégal a déjà gagné, on a déjà fêté. Et on n'est pas prêt à rendre le trophée, quoi. On n'est pas prêt.
Déterminé, à l'image du Sénégal qui demande au tribunal arbitral du sport de rétablir le pays dans ses droits. C'est aussi le point de vue de Babacar, venu faire du sport, non loin de là.
Non, on ne laisse pas ça. On va aller jusqu'au bout. Hein. Ça ne se fait pas. On nous a laissé jouer. On a gagné. On nous a donné la coupe. Puis après, on nous a dit, on nous a éliminés. On ne laisse pas ça.
Plus philosophe, ces lycéens s'amusent avec humour de l'absurdité de la situation.
Nous, on a déjà célébré. Tout le peuple sénégalais a déjà célébré. Parce que nous, on a mérité cette victoire. Mais s'ils veulent nous, on peut leur donner la coupe. Hein, parce que ça fait longtemps. 50 ans qu'ils n'ont pas vu la Coupe d'Afrique. On va les donner, ce n'est pas grave. Parce que le monde entier a vu.
Hier, le gouvernement sénégalais a demandé l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF, affichant sa volonté de voir son sacre continental réhabilité. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Que peuvent valoir les arguments du Sénégal devant le TAS? Que disent ces fameux articles 82 et 84 du règlement? Diassé Sambe vous en livre une explication claire et détaillée sur notre site rfi.fr. Entre la Mauritanie et le Mali, on retrace maintenant l'itinéraire d'une fausse information. Ces deux militaires maliens, otages d'un groupe terroriste, qui auraient réussi à s'échapper d'un camp de réfugiés en Mauritanie il y a une petite semaine. Une rumeur qui a fait bondir Nouakchott, qui a évoqué des accusations infondées et sans la moindre preuve, en proposant même au Mali, voire à l'AES, de venir enquêter sur place. Et on remonte donc la piste ce matin. Comme nous vous le révélions hier, les deux soldats étaient bien otages du Jnim, mais sur le sol malien, et ils sont libres, David Bachet, après le paiement d'une rançon.
Ils n'étaient pas détenus en Mauritanie et ils ne se sont pas échappés. Selon les informations recueillies par RFI auprès de sources sécuritaires maliennes et mauritaniennes, ainsi que de notabilités locales, les deux soldats maliens étaient bien otages des djihadistes du Jnim, mais sur le sol malien, dans la forêt du Ouagadou, à une trentaine de kilomètres de la frontière mauritanienne. Et c'est en échange d'une rançon versée par leur famille, et dont le montant varie selon les sources interrogées, que les deux militaires ont été libérés. Dans son communiqué, l'armée malienne affirmait qu'en plus des deux soldats, le préfet de Dioïla, également retenu en otage, avait lui aussi réussi à échapper à ses ravisseurs, dans une autre zone au Mali, mais heureuse coïncidence, au même moment. Les sources jointes par RFI assurent que lui aussi a bénéficié d'une libération contre rançon. Pour parfaire la mise en scène, les deux soldats maliens, une fois la rançon payée, ont été transportés à proximité de l'Mahalé, non loin du poste frontière de Fassala, côté mauritanien, une zone qui accueille des réfugiés maliens, mais sans l'organisation formelle d'un camp. Ultime étape de la libération des deux désormais ex-otages, récupérés à moto par un facilitateur et finalement remis à l'armée malienne.
Ni l'armée d'ailleurs, ni le ministère malien des Affaires étrangères n'ont répondu à nos sollicitations.
Le président du Libéria salue à son tour le dialogue avec ses voisins du fleuve Mano.
Ce sommet à trois dont on vous parle depuis le début de la semaine, Mamadi Doumbouya qui accueillait à Conakry Joseph Boakai donc, mais aussi Julius Maada Bio pour la Sierra Leone. Alors que leurs frontières communes ont été le théâtre d'une brusque montée de tensions ces dernières semaines. Le président libérien s'exprimait hier pour abonder dans le sens du dialogue et du compromis.
Dès le début, le gouvernement du Libéria a pris des mesures pour désamorcer la situation par des moyens pacifiques et diplomatiques. Nous avons échangé directement avec le gouvernement de la Guinée. De plus, nous avons travaillé en étroite collaboration avec notre sœur, la République de Sierra Leone, dans le cadre de l'union du fleuve Mano, pour faire en sorte que le dialogue et la coopération guident nos actions. À la suite de ces engagements, les dirigeants du Libéria, de la Guinée et de la Sierra Leone ont réaffirmé leur engagement collectif en faveur de la paix et de la stabilité le long de nos frontières communes. Grâce à cette entente, toutes les parties ont convenu de travailler au rétablissement du statu quo et de veiller à ce que nos collectivités frontalières continuent de vivre en paix, dans le respect et la confiance.
Voilà pour un extrait de la locution hier de Joseph Boakai. En Guinée, proprement dite, les procédures s'accumulent contre les retraits de permis miniers. Vous vous souvenez peut-être de cette annonce fracassante il y a bientôt un an, ces dizaines de titres retirés à des entreprises étrangères. Des compagnies dont certaines donc ne s'en laissent pas compter. Il y a trois jours encore, les Émiriens de Falcon Energy Materials ont réclamé 100 millions de dollars à Conakry et dénoncé l'expropriation illégale de leur projet de graphite près du Libéria, Alexis Bédu.
C'est la troisième procédure déposée devant le CIRDI, le tribunal arbitral attaché cachée à la Banque mondiale contre la Guinée en quelques mois. Axis Minerals réclame 28 milliards de dollars. L'entreprise émirienne Nimba Investment et d'autres sociétés sont également vent debout sur le projet de raffinerie d'or à Conakry, mais aussi sur des permis miniers révoqués. L'avocat Jemal Taleb, associé du cabinet Diamantis & Partners, est engagé dans une de ces procédures.
Ce que fait le gouvernement guinéen, s'il se confirme comme cela et que sa tendance est confirmée, évidemment, il n'y a pas mieux pour faire fuir les investisseurs. J'ose espérer que l'intelligence du gouvernement guinéen, du président Doumbouya, va être rattrapée par la raison et comprendre qu'un pays qui n'a pas d'investissement international est un pays qui n'est pas viable. Et donc, le toilettage du cadastre minier, il ne peut se faire que dans le respect des droits et des obligations que les Guinéens ont vis-à-vis de leurs partenaires nationaux et internationaux.
Contacté, le ministre des Mines assure, je cite, que tous les retraits de titres miniers ont été faits conformément au code minier et aux conventions en vigueur. Mais la liste s'allonge et sur certains litiges, Conakry négocie. Concernant le différend avec l'homme d'affaires mauritanien Yacoub Sidia, la Guinée s'est directement adressée il y a quelques semaines aux autorités de Nouakchott pour trouver, je cite, une solution apaisée et concertée.
Alexis Bédu à 6h38 à Conakry, même heure à Rabat. Le Maroc et les proches d'Ibtissam Lashgar qui s'en remettent à une possible grâce royale pour la fin du Ramadan pour cette militante féministe incarcérée depuis plus de 7 mois. En octobre dernier, la cour d'appel de Rabat avait confirmé sa peine de 2 ans et demi de prison ferme pour atteinte à l'islam. Mais ses proches alertent sur la détérioration de son état de santé, en rappelant aussi qu'Ibtissam Lashgar a survécu il y a plusieurs années à un cancer des os qui lui a laissé des séquelles. François
Siam Lashgar, la sœur de la militante incarcérée, se dit inquiète pour l'état de santé d'Ibtissam Lashgar, qui aurait dû subir une opération lourde en septembre 2025, soit quelques semaines après son arrestation et son incarcération.
En tant que survivante d'un cancer, elle devait subir une opération liée en fait à la prothèse qu'elle a au niveau de son bras gauche, au niveau de l'humérus. Et malheureusement, ça fait 7 mois qu'elle est en détention, qu'elle dort sur ce qu'on appelle de la paillasse, c'est-à-dire 2 couvertures qui font guise de matelas. Forcément, son état de santé s'est détérioré de manière rapide et brutale.
Aujourd'hui, les proches de la militante en appellent à une grâce royale, notamment à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan, qui sera fêtée à la fin de la semaine.
Mon souhait premier est qu'elle sorte de prison, qu'elle puisse avoir accès enfin aux soins auxquels elle doit avoir accès, aux soins adaptés à sa situation et à son handicap.
Son avocate Rizlan Mamouni indique avoir demandé à 3 reprises l'instauration d'une peine alternative et invoque aujourd'hui un risque d'infection, voire d'amputation du bras de sa cliente.
Ces peines alternatives ont été refusées pas moins de 3 fois, au motif principalement que les faits qui lui sont reprochés seraient trop dangereux, je cite.
Ibtissam Lashgar se définit comme athée. La justice lui reproche d'avoir publié une photo d'elle avec un t-shirt portant un message jugé blasphématoire. François Imferkataji, Casablanca, RFI.
Querelle de chiffres en Côte d'Ivoire entre le CCC, le Conseil Café Cacao, et l'OIA, l'Organisation Interprofessionnelle Agricole.
OIA qui se dit toujours dans l'attente du paiement des stocks résiduels de cacao de la campagne principale. On le rappelle, faute de liquidité de la part des opérateurs, des stocks importants de fèves sont restés entassés dans les coopératives des producteurs. L'État avait annoncé le rachat de 100 000 tonnes. Il avait raccourci la campagne principale et fixé aussi un prix largement à la baisse pour la campagne intermédiaire. Binta Diagne.
D'après l'OIA, les planteurs ont entamé les ventes pour la campagne intermédiaire. Les chiffres ne sont pas disponibles, mais ces professionnels du secteur constatent que des connaissements ont été délivrés à cet effet. Ce qui fait blocage, selon eux, c'est toujours la gestion des stocks résiduels de la campagne principale. En effet, l'État avait annoncé le rachat de 100 000 tonnes de fèves de cacao en souffrance dans les coopératives. Mais à date, au moins 60 000 tonnes n'ont pas été rachetées, affirme Obed Bondedoua, 3e vice-président et porte-parole de l'OIA.
Il reste encore entre 55 000 et 60 000 tonnes à enlever. Nous sommes sûrs que dans les jours à venir, la totalité des 100 000 tonnes sera orientée vers les sociétés coopératives pour que les planteurs de Côte d'Ivoire puissent rentrer dans leur fonds.
Des informations rejetées par le Conseil Café Cacao qui rappelle que l'OIA s'était vu attribuer un quota de 40 000 tonnes au cours d'une rencontre à la primature, le reste étant partagé entre 2 autres opérateurs. Sur les 100 000 tonnes de stock résiduel, il ne reste plus rien, assure un responsable du CCC qui dénonce par ailleurs le manque de transparence de l'OIA vis-à-vis des planteurs. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Allez, une promesse de nostalgie pour terminer ce journal.
Les notes qui vont suivre sont celles d'un groupe qui a connu toutes les scènes du monde en 4 décennies et demie de carrière. Sauf que la Terre est ronde et qu'on finit par rentrer chez soi. Alors quand ce n'est pas physiquement possible, seule la musique permet de le faire. Ça s'appelle Hogar. C'est le nom à la fois des montagnes autour de Taman Rasset et du nouvel album de Sétine Ariwen que Léa Boutin-Rivière a écouté.
Sur son album précédent, Tina Ariwen matinait son blues touareg de sonorité country. Cette fois, le groupe signe un disque 100% tourné vers ses racines. Enregistré à Taman Rasset, Hogar laisse se déployer les guitares, les chœurs de femmes et les chants traînants sans aucune concession à des accents venus d'ailleurs. Abdallah Agaloseni, l'un des membres fondateurs de Tina Ariwen.
Ça n'a plus qu'une musique qui les touareg seulement qui les écoute. Ça commence à devenir une musique universelle. Mais nous, on voudrait toujours qu'on garde une tâche de chez nous. Donc, cette année, on voulait franchement aller profondément dans les sources authentiques.
Les paroles des chansons aussi laissent transparaître ce mal du pays. Il faut dire qu'il n'y a pas de retour à la maison possible pour Tina Ariwen. Le groupe a été chassé de sa région de l'Azawad, le nom que les Touaregs donnent au nord du Mali, par la situation sécuritaire. Plus encore que les précédents, ce disque chante donc l'errance, la perte de son foyer, et signe pourtant le retour à ce qui ressemble le plus à un chez-soi, la musique des origines.
Le nouvel album de Tina Ariwen, c'est notre choix musical ce matin. Rendez-vous juste avant 9h avec Léa Boutin-Rivière. Merci, Edouard Dupénoit. À Dakar, il est 6h44, c'est la revue de presse. Avec Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, la CAF sur le banc des accusés.
Le chaos perdure, constate Le Monde Afrique, et cette finale irrationnelle de Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal face au Maroc à Rabat le 18 janvier dernier. Cette finale n'en finit pas de se jouer hors du terrain. Avant-hier soir, donc stupeur, 2 mois après le match, la CAF, la Confédération Africaine de Football, retire le titre de champion d'Afrique au Lion de la Teranga, déclaré forfait, et accorde à la sélection marocaine une victoire 3-0 sur tapis vert du jamais vu. Et désormais, un bras de fer juridique est engagé entre les autorités sénégalaises et la Confédération africaine de football. En effet, rapporte Jeune Afrique, la Fédération sénégalaise, présidée par Abdoulaye Fall, a rapidement annoncé son intention de saisir le tribunal arbitral du sport, le TAS. Le sort de cette finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 va donc se jouer à Lausanne, dans les prétoires de la juridiction suisse. La bataille juridique continue et elle promet d'être longue et âpre. D'autant, souligne Jeune Afrique, d'autant que le gouvernement sénégalais, totalement solidaire de la fédération, a demandé l'ouverture d'une enquête internationale pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF.
En attendant, les critiques fusent en direction de la CAF.
Afrique.com fulmine en attribuant sur tapis vert la victoire au Maroc. L'instance continentale ne se contente pas de réécrire le résultat d'un match. Elle redéfinit de manière inquiétante les règles qu'elle est censée faire respecter. Car au cœur de cette polémique, précise le site panafricain, se trouvent les fameux articles 82 et 84 du règlement de la compétition. Ces dispositions sont claires. Une équipe qui quitte le terrain sans autorisation ou refuse de jouer s'expose à un forfait automatique. Mais encore faut-il que ces conditions soient réunies. Or, s'exclame Afrique.com, dans cette finale, elles ne l'ont tout simplement pas été. Oui, les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse, mais non, ils n'ont ni abandonné le match, ni refusé de jouer. Ils sont revenus, ils ont repris la rencontre, ils ont joué jusqu'au coup de sifflet final et ils ont gagné. Ce simple fait devrait suffire à clore le débat, mais visiblement, dans les arcanes de la CAF, la réalité du terrain pèse moins lourd que certaines volontés politiques ou stratégiques.
Dans la presse ouest-africaine, c'est le tollé général Haro sur la CAF.
Quand la CAF se discrédite, lance le pays au Burkina Faso, la CAF a prononcé l'oukase de trop. Le Sénégal refuse d'avaler l'anaconda. Peste aujourd'hui. La CAF s'enterre avec un forfait tardif qui humilie l'Afrique. Tonne Sahel Tribune à Bamako. Le Djeli à Conakry dénonce une CAF minée par la défiance. Entre les rumeurs de mauvaise gestion, les soupçons d'inféodation à la FIFA et les critiques dénonçant une primauté croissante des intérêts financiers sur les considérations sportives, l'institution panafricaine traverse une crise de crédibilité. Derrière Derrière acte, poursuit le Gelli, beaucoup croient discerner une influence extérieure, celle de Gianni Infantino ou celle d'intérêts financiers occultes. Au-delà de la décision elle-même, c'est donc une crise de confiance plus profonde qui se révèle, une crise qui interroge la gouvernance du football africain et la crédibilité de ses instances.
Dans la presse sénégalaise passée, la stupeur et l'indignation, on veut croire en une décision favorable du TAS, le tribunal arbitral du sport.
Le TAS, pour tout casser, titre Wolf Quotidien. Wolf qui précise que la fédération sénégalaise compte invoquer un principe fondamental des lois du jeu défini par l'International Football Association Board, la loi numéro 5 qui stipule que les décisions de l'arbitre concernant les faits de jeu, y compris le résultat du match, sont définitives une fois la rencontre terminée. Comme quoi, affirme le journal, le match de la finale qui est allé à son terme est donc validé, un argument béton. Et puis le solide tas, T-A-S, tas, donc d'arguments, le solide tas d'arguments du Sénégal renchérit le soleil en première page.
Enfin, la presse marocaine dénonce l'immixtion du gouvernement sénégalais dans cette affaire avec les accusations de corruption à l'égard de la CAF.
Oui, pour le site marocain Le 360, le risque est réel, celui de voir cette indignation alimentée par un narratif politique se traduire par des comportements hostiles, voire violents, à l'encontre des ressortissants marocains qui vivent au Sénégal ou de leurs biens. L'histoire récente, conclut Le 360, nous a appris que le football, lorsqu'il est instrumentalisé, peut vite sortir de son cadre.
Frédéric Couteau, merci. Dans le prochain journal à 8h, on entendra et on analysera la mise au point hier de Patrice Motsepe, le patron de la CAF.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Les infrastructures énergétiques au premier plan de la guerre au Moyen-Orient ces dernières heures. Une attaque attribuée par Téhéran à Israël sur le site de Sousparts, situé à cheval entre l'Iran et le Qatar. L'Iran, de son côté, a frappé à nouveau le site de Ralafan, le plus grand pôle de liquéfaction de gaz au monde, au Qatar. Le Qatar, donc deuxième exportateur au monde de GNL, doit fait état de dégâts considérables. Donald Trump a promis de détruire la réserve de Sousparts si l'Iran attaque de nouveau un site qatarien de production de gaz naturel liquéfié. Face à cette situation, le prix du pétrole bondit à nouveau ce matin. Le baril de Brent s'est envolé de 5% dans les échanges asiatiques. Et justement, le Français Emmanuel Macron a proposé ce jeudi un moratoire sur les frappes contre les infrastructures civiles, notamment énergétiques, et dit avoir échangé avec le président américain et l'émir du Qatar. En parallèle, l'Iran a annoncé ce matin l'exécution de 3 émeutiers reconnus coupables du meurtre de membres des forces de l'ordre et d'avoir agi pour Israël et les États-Unis. On appelle Siavosh Ghazi à Téhéran à 8h. Cette guerre au Moyen-Orient, mais aussi celle en Ukraine, au cœur du Conseil européen qui démarre ce jeudi à Bruxelles. Sa victoire doit encore être validée par la Cour constitutionnelle, mais celle de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle au Congo-Brazzaville. Mais selon les résultats provisoires, le chef de l'État sortant rempile et a empoché près de 95% des voix avec une participation établie à plus de 84%. Des résultats qui, selon la plateforme de la société civile CAPGED, ne reflètent pas la réalité. Son porte-parole, Bertrand Meunier-Gounianga, est l'invité de Charlotte Hydra, qu'il nous détaille ce qu'ont rapporté les observateurs pour ce vote. Entretien.
Bonjour Bertrand Meunier-Gounianga.
Bonjour madame.
Vous parlez d'une élection Nintendo. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Une élection Nintendo, c'est une élection qui a été manipulée du bout au bout par la personne qui a tenu les manettes. Des opérations préparatoires jusqu'au vote, nous avons observé que rien n'était crédible et puis rien ne pouvait rassurer les populations.
Cette élection a été marquée par une coupure totale des communications le jour du vote, internet et téléphone. Qu'est-ce que ça a entraîné comme difficulté pour les électeurs, les candidats et les observateurs ?
Bon, pour les candidats, ça a été quand même une affaire très grave parce que ça leur empêchait de coordonner les opérations avec les équipes qui étaient sur place. Et ça a eu pour incidence que la quasi-totalité des candidats de l'opposition n'avaient presque pas des observateurs ou des délégués dans les bureaux. Maintenant, pour nous, les électeurs, c'était très grave parce qu'en même temps que le jour du vote se déroule, nous avons des communications à passer avec nos parents et nous avons observé des cas de maladies, des gens qui sont tombés malades, ils n'ont pas pu appeler l'ambulance et c'est inadmissible.
Les associations citoyennes de CAPGED avaient déployé des observateurs dans 49 centres de vote de la capitale, Brazzaville. Sur le déroulement des opérations de vote, quels sont les principaux constats qui ressortent des observations sur le terrain ?
la majorité des candidats en dehors du président de la République n'avaient pas des représentants dans les bureaux de vote. Et la deuxième chose, c'est que les bureaux de vote ont dans la quasi-totalité ouvert en retard et fermés plus tôt que prévu. Et nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'engouement. Dans plusieurs bureaux comme ça que nous avons observés, les gens ne sont pas motivés, ce qui traduit d'ailleurs que le jour de la publication des résultats, il n'y a pas eu une liesse dans la ville alors que le président de la République a fait un plébiscite.
Les autorités ont pourtant annoncé un taux de participation de plus de 84%. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Les taux publiés par les autorités ne traduisent pas ou ne reflètent pas la réalité sur le terrain parce que la plupart des médias ou encore des témoins qui étaient sur le terrain vous diront qu'il n'y avait pas d'engouement et le taux de participation tel que nous avons vu ne pouvait pas dépasser 10%.
Cette participation qui est impossible à chiffrer de manière indépendante en raison justement de la coupure des communications. Sur les autres constats, qu'est-ce que vous avez pu observer ? Il y a une problématique de vote multiple, c'est ça ?
Oui, il y a une problématique de vote multiple et dans certains bureaux de vote, il nous a été reporté que les militaires qui avaient voté le 12 ont encore voté dans certains bureaux de vote. Et puis, les agents publics qui étaient chargés de distribuer les cartes d'électeurs ont fait la rétention de ces cartes. Et ces cartes se sont retrouvées dans les QG du candidat de la majorité. Et le jour du vote, des personnes venaient voter à la place des autres. Et ça fait des doublons. Et ces actes se sont répétés. Il y a eu des bourrages des urnes dans certains centres. Nous avons pu quand même les documenter.
Et sur la surveillance du dépouillement après les opérations de vote, qu'est-ce que vous avez constaté ?
Bon, nous avons constaté qu'il y a eu des bureaux où le dépouillement ne s'est pas effectué sur place. Après la clôture de vote, les agents de l'ordre et les agents de l'administration ont pris les urnes et les ont emportées. Et ça ne peut pas rassurer. Pourquoi ? Parce que ces urnes peuvent être bourrées là où ils sont partis. Et puis, notamment toujours sur le dépouillement, dans beaucoup de centres de vote que nous avons observés, les résultats n'ont pas été publiés. Et ce sont des irrégularités graves parce qu'à ce moment-là, on se contentera simplement aux résultats publiés par les autorités alors que les gens devaient avoir des preuves.
Quels sont les points positifs à retenir sur l'organisation de ce scrutin ?
Le scrutin s'est déroulé en tout cas sans incident, dans la tranquillité. Par rapport aux autres élections, nous n'avons pas pu documenter des cas de brutalité.
Le CAPJET, dans son communiqué, indique que l'élection n'a été ni juste, ni équitable, ni transparente. Est-ce qu'il y aura une suite après cette conclusion ?
Nous allons demander au dialogue, parce que lorsque les autorités sont élus à l'issue d'une élection qui n'est ni crédible ni transparente, ces autorités ne peuvent pas avoir de légitimité. Et donc, nous allons demander pendant tout le mandat de convoquer le dialogue. Pourquoi pas aller dans une transition ?
Merci à vous, Bertrand Meunier-Kunyanga.
Entretien avec Charlotte Idrac et sur cette élection et ses résultats annoncés. Vous réagissez tout à l'heure dans Rappel sur l'actualité. Maman, ce matin, vous nous parlez du rôle de conseiller spécial de président fondateur, un métier, dites-vous, assez spécial.
Oui, pendant longtemps, le Gondwanais lambda a cru qu'il était le métier le plus ardu et le plus spécial en très très démocratique république. C'est vrai que, vu de la hauteur du Gondwanais lambda, la vie quotidienne est une galère interminable. Bah oui, tu rames du matin au soir, du lever au coucher du soleil, sans répit ni vacances, et en plus, tu sais qu'au bout de tout ça, il n'y a aucun salaire qui t'attend, mon ami. Profession Gondwanais lambda, un métier sans contrat d'embauche, sans fiche de paye, sans protection sociale, sans plan de carrière, sans retraite, sans rien d'autre que le système D. D comme c'est dur, mon frère. Mais il serait erroné de penser que Gondwanais lambda est le seul métier ardu en très très démocratique république. Au-dessus des autres, très très au-dessus, crème de la crème, il y a le métier de conseiller spécial de président fondateur. C'est un métier auquel une expression française a même été spécialement dédiée, l'expression « contrairement aux apparences. Oui, contrairement aux apparences, le conseiller spécial de président fondateur n'est pas un conseiller. Bah oui, il ne passe pas ses journées à murmurer des conseils présidentiels à l'oreille de président fondateur, à lui suggérer quoi faire et qui défaire, à qui dire bonjour de loin et qui éviter en public, quand partir en voyage officiel et quand revenir de cure thermale. Ce n'est pas tout. Contrairement aux apparences, le conseiller spécial de président fondateur n'a rien de spécial. Bah oui, il reçoit
ressemble à tous les autres conseillers, en ce sens que tu ne le vois jamais, mais tu n'entends parler que de lui, partout dans les couloirs de la présidence. Le conseiller spécial a fait ci, le conseiller spécial a fait ça, le conseiller spécial n'est pas content, etc., etc. Et contrairement aux apparences, le conseiller spécial de président fondateur est sur toutes les photos du gouvernement, même si tu ne le vois jamais, mon cher Condoleezza Lambda. Bah oui, regarde bien les photos des ministres dans les journaux. C'est le conseiller spécial qui est là, juste derrière le ministre, là, caché derrière ce décret, derrière ce coup de menton volontaire, derrière toute nomination et toute disgrâce. Oui, contrairement aux apparences, le numéro 2 de l'État, l'homme le plus puissant du pays, après, bien sûr, notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur, eh ben, ce n'est pas le Premier ministre ni le